أمغار يتسل دقبر نوس دي سيالة يزيزين ميسيت حبير القوت وسندق قارص الزين أمغار يتسل دقبر نوس دي سيالة يزيزين ميسيت حبير القوت وسندق قارص الزين.
Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de vie, aujourd'hui, ce n'est pas seulement un plaisir que nous avons d'accueillir notre invité, mais c'est aussi un honneur. Car la carrière journalistique d'Isabelle Vité, que beaucoup de gens connaissent ici à Périgueux et en Dordogne, a été constamment au service de la recherche de la paix dans le monde, de la revendication de plus de justice sociale et de la lutte contre toutes les formes de discrimination. Isabelle Vité, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et nous allons avec vous essayer de parcourir votre riche carrière au service de la presse écrite essentiellement au cours des décennies passées déjà, puisqu'on peut parler de décennies. Comment devient-on journaliste comme vous l'avez fait ?
Alors, devenir journaliste comme je l'ai fait, c'est saisir les opportunités de la vie. La carrière la plus directe quand même pour devenir journaliste, enfin le chemin le plus direct, c'est de rentrer dans une école de journalisme après le bac et d'en sortir avec le diplôme. Moi, c'est pas comme ça, j'y suis arrivée un petit peu par accident après avoir fait pas mal de petits boulots. Et ça m'a bien plu, ça m'a bien convenu et j'y suis restée, ça fait 25 ans maintenant.
Donc vous êtes un journaliste sorti du rang.
Voilà, autodidacte.
Et vous avez fait toute cette carrière journalistique à Périgueux et dans le Périgord ?
Oui, en Dordogne. J'ai fait un stage de 15 jours à l'ADL, mais bon, ça c'était vraiment anecdotique. J'ai ensuite été pendant 5 ans pigiste, photographe et correspondante sur les communes de Boulazac et Trélissac pour le journal Sud-Ouest. Mais bon, il n'y a pas franchement d'avenir dans ce... Le poste que j'occupais, et quand l'Écho a cherché des journalistes, je me suis inscrite dans le projet, j'ai été prise, je m'y suis sentie très très bien, vu la ligne éditoriale, et depuis j'y suis restée, jusqu'à malheureusement la fermeture de l'Écho le 6 novembre dernier.
Oui, on sait, tout le monde sait comment la vie de ce quotidien régional s'est terminée récemment. Vous avez été amenée donc à faire aussi des photos.
Oui.
Et pour ça, vous avez eu une formation ou bien ça vous est venu naturellement comme le journalisme ?
Non. Là, la photo, je dirais plus que c'est, pour ainsi dire, héréditaire. Dans la famille de mon père, ils ont toujours été passionnés de photos. Dès que la photo est apparue à la fin du 19e siècle, ils ont commencé à faire des photos. Ce qui fait que nous avons des photos. Moi, j'ai une photo de ma grand-mère. Ma grand-mère est née en 1897. J'ai une photo d'elle où elle a à peine 4 ans. Donc on est vraiment d'une famille où la photo a toujours été présente. Et mon père, passionné de photo lui aussi, avait installé un labo photo noir et blanc, bien sûr, à la maison dans la cave, avec un vieil agrandisseur en bois. Et je me suis tout de suite intéressée à la technique, au développement d'abord, à la prise de photo aussi. Et ensuite, j'ai travaillé dans un labo photo, j'y suis rentrée en 1985. C'était les tout premiers laboratoires photo qui développaient en une heure les pellicules couleurs, si vous vous souvenez. Voilà, et j'ai travaillé 8 ans dans ce labo photo.
Alors vous êtes en train de me couper l'herbe sous le pied, puisque traditionnellement, cette émission Tranche de vie se termine par des questions sur les hobbies, les passe-temps favoris des invités. Mais on reviendra à la photo, en tout cas pour vous demander si vous disposez d'archives et de documents qui pourraient prêter à de nombreuses expositions peut-être.
Je ne sais pas si j'en ai tant que ça. La photo a toujours pour moi été plus un loisir et une façon aussi de se rapprocher, de ne pas oublier. C'est aussi un rapprochement entre les gens. Quand vous prenez une photo, vous échangez avec la personne parce que souvent elle vous la demande derrière. Et j'ai jamais eu l'idée vraiment d'exposition dans mes prises de vue. Après, j'ai quelques fois exposé pour une amie qui était responsable d'une association avec le Maroc. Donc, comme j'ai souvent été au Maroc, j'avais pas mal de photos. Donc voilà, j'ai fait des petits clins d'œil, mais d'exposition vraiment, je dirais non. C'est voilà, beaucoup personnel.
On reviendra quand même un petit peu à la photo, mais là vous nous ouvrez toutes sortes de chemins d'exploration. Alors le Maroc, vous avez eu des liens particuliers avec le Maroc, avec l'Afrique du Nord ?
Oui, mon mari était marocain, il est décédé en 1995. Voilà, il était marocain, ma belle famille vit au Maroc, pratiquement toute ma belle famille. Et on a toujours des liens avec mon fils. Je l'ai envoyé, après le décès de son père, passer ses vacances au Maroc tous les ans pour qu'il reste quand même en contact avec sa moitié paternelle, hein, puisqu'il n'y avait à l'époque pas du tout de famille en France. Aujourd'hui, il a deux cousines. Mais voilà, ce qui fait que oui, j'ai des liens avec le Maroc. Je n'ai jamais été au Maroc en tant que touriste. Dans les hôtels, etc., je ne connais que le Maroc chez l'habitant.
Alors, votre entrée dans la presse écrite, elle s'est donc faite par le biais des quotidiens, des deux grands quotidiens locaux, et puis ensuite...
Par le meilleur.
Par le troisième, à savoir l'Écho de la Dordogne.
Le meilleur, absolument.
Le meilleur, comme vous dites. C'est toujours les meilleurs qui partent.
Oui.
Et alors, parlez-nous un petit peu de vos débuts. Comment ça s'est passé ? Vous avez été confronté à cette espèce de sentiment d'urgence qu'on voit toujours les journalistes avoir. Il faut que ça soit fini, il faut que ça soit bouclé, etc. Est-ce que ça, vous l'avez connu ?
Oui. On le connaissait pratiquement au quotidien. Un journaliste, il doit... Lorsqu'on travaille dans un quotidien, on doit écrire pour le lendemain. On peut pas se dire, oh ben ça, je le ferai plus tard, oh ben j'ai pas eu la réponse, tant pis. Non, il faut qu'on écrive l'article pour le lendemain. Certaines fois, on a des personnes à joindre qu'on n'arrive pas à joindre, on passe 50 coups de fil. Donc effectivement, on perd du temps, on s'agace un petit peu, on est dans l'urgence. Mais je dirais que c'est un peu aussi l'ADN du journaliste quotidien. Et quelquefois, on se rend compte que quand on a, par exemple, 3 jours pour faire un journal, ce qui peut arriver s'il y a un jour férié à un moment donné, un lundi férié, par exemple, ben on est un petit peu démuni, on ne sait pas travailler dans le calme, en fait.
Mais alors, vous êtes aussi contrainte par le format des articles, par leur contenu, bien entendu, par la ligne éditoriale. Parlez-nous un petit peu de la manière dont tout ça se concilie.
Alors,
surtout du fait que vous avez commencé à une époque où il y avait des facilités de mise en page et de composition qui étaient bien inférieures à ce qu'elles sont devenues.
Oui. Alors, il y avait surtout une complexité dans l'envoi des papiers, dans la mise en page, dans l'envoi des photos en particulier, puisque c'était... On envoyait encore nos photos au début où j'étais à Sud-Ouest avec ce qu'on appelait le belin. C'est-à-dire, c'était un fax à photo,
oui,
en fait.
Un bélinographe, oui.
Voilà, oui, qui était... Donc, comme il n'y avait qu'une ligne pour toutes les agences de Sud-Ouest qui arrivaient au même endroit, à l'atelier à Bordeaux, elle était souvent occupée le dimanche soir au moment des matchs où tout le monde essayait d'envoyer ses photos de matchs. Et là, on pouvait attendre très longtemps pour envoyer une photo. Aujourd'hui, on ne connaît plus ça. Concernant la ligne éditoriale de l'Écho. Alors, la ligne éditoriale de l'Écho... Elle me correspond tellement que de toutes les façons, je m'y suis toujours sentie bien. Je ne me suis jamais posé de questions. Je ne me suis jamais auto-censurée. Je n'ai jamais non plus été censurée par ma direction, ni par mes lecteurs. C'est important de le préciser. La seule auto-censure qu'on se fait, c'est évidemment de ne pas blesser inutilement des gens, de ne pas, certaines fois, exposer trop en détail des situations qu'on a à connaître, tout simplement parce qu'il y a aussi le respect de la vie privée, le respect de la dignité de la personne, quelle qu'elle soit. Après, c'est vrai que je me suis vraiment toujours sentie bien dans la ligne éditoriale de l'Écho, très à gauche, très engagée dans la défense de tous ceux qui sont faibles, la défense de ceux que notre gouvernement devrait... soutenir et qu'ils jettent par milliers dans la rue.
Et alors, j'espère que vous allez me répondre par la négative, mais allumer une petite polémique au détour d'un article. On sait que c'est le péché mignon de beaucoup de journalistes. Est-ce que ça, c'est
alors,
quelque
si
chose
la
qui
polémique,
vous a démangé quelquefois?
Si la polémique peut mener à quelque chose, oui, bien sûr. Mais essayer de sortir la petite phrase qui va dresser machin contre truc, non, ça, c'est pas de l'information. C'est du buzz. Le buzz, c'est pas du journalisme.
Est-ce que vous avez senti dans votre métier, vous êtes senti progresser ?
Moi, personnellement, oui. D'abord parce que plus on rencontre de situations, si on est suffisamment ouvert pour essayer de les comprendre, non pas à travers ce qu'on sait nous-mêmes, mais à travers ce que les gens vivent vraiment, on découvre tous les jours. C'est un métier où on apprend tous les jours. On apprend aussi du vocabulaire, d'ailleurs. En 1999, j'ai appris du vocabulaire, comme ça, après la tempête, sur la forêt, sur le bois. On apprend tous les jours dans ce métier. Donc, effectivement, on progresse personnellement. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être ouvert sur les autres et pas avoir l'impression qu'on arrive avec nos certitudes.
Et est-ce que vous avez eu la sensation, quelquefois, d'être... Puisque j'imagine que les autres médias, vous les avez fréquentés assidûment... est-ce que vous avez eu la sensation d'être un peu contaminé par l'évolution du vocabulaire, en adoptant certains éléments de langage qui sont ou des expressions devenues à la mode? Est-ce que quand on est journaliste de presse écrite, on sent qu'on est obligé de lutter contre ça?
Moi, j'essaye d'écrire pour un maximum de personnes de tous âges, même si on sait que peu de jeunes lisent vraiment les quotidiens, mais de tous âges, avec un langage qui soit à la fois évidemment accessible à tous, mais sans chercher des mots jeunes, des mots d'aujourd'hui. Non, j'emploie les mots qu'on emploie tous. On a un dictionnaire qui est très fourni en français. On a beaucoup, beaucoup de vocabulaire. Et ce vocabulaire, c'est un vrai plaisir de l'utiliser. Donc pourquoi aller chercher un espèce de vocabulaire qui n'est pas vraiment compris non plus de tout le monde certaines fois. Parce que quand il y a beaucoup d'anglicismes de plus en plus ou de mots qui ressemblent à de l'anglais, je ne sais pas si ça en est vraiment, est-ce qu'ils sont vraiment compris des personnes à qui on s'adresse nous, à notre lectorat qui parfois est assez âgé et qui préfère comprendre directement ce qu'il lit sans avoir besoin d'aller chercher sur Internet qui n'a pas toujours ce que ça veut dire.
Alors justement, quand on est journaliste de presse écrite, on est quand même obligé d'obéir à certaines contraintes. On parle du vocabulaire. Vous êtes certainement tenu de faire, vous le sentez toute seule, j'imagine, de faire des phrases suffisamment courtes, puisqu'on sait qu'au-delà de 15 mots, le lecteur moyen perd pied, et puis d'employer un langage accessible à tout le monde, comme vous le disiez. Alors ça, est-ce que ça s'acquiert au fil du temps ?
C'est quelque chose qu'on apprend à l'école, de toutes les façons, déjà par les dissertations, par les rédactions qu'on a à faire, etc. On apprend à s'exprimer et à raconter quelque chose dans un format un petit peu précis et court. Après, c'est vrai que la longueur des phrases peut être un problème. J'ai tendance à faire des phrases longues, donc je me relis beaucoup, je me relis toujours très soigneusement, ce qui n'empêche pas de laisser passer des erreurs. Mais le problème, c'est parfois quand on n'a pas trop le temps de relire, parce qu'on est vraiment dans l'urgence, parce que, par exemple, un conseil municipal qui se termine tard, vous avez évidemment un temps encore plus restreint pour l'écrire. Mais je me souviens en particulier d'un... Alors, je ne sais plus de quoi parler cette audience de tribunal, mais le verdict était tombé assez tard, donc j'avais écrit vraiment dans l'urgence. Je m'étais relue certainement trop vite, et le lendemain... C'est en me relisant le lendemain que je me suis rendu compte que j'avais une phrase qui était interminable. C'est vrai que c'est une chose. Il faut toujours être vigilant quand on écrit.
Voilà, c'est l'épreuve de la lecture, de la relecture du lendemain, qui est dans la plupart des cas tellement, tellement utile, puisque ça permet de rectifier beaucoup de choses. C'est un métier dans lequel vous ne pouvez pas toujours vous le permettre, bien entendu.
Non, parce que le lendemain, c'est déjà dans le journal, c'est écrit, c'est publié, tout le monde l'a lu. Voilà. Donc la correction, elle doit vraiment avoir lieu sur le moment. Et on peut écrire des choses parfois, on est tellement pris dans ce qu'on écrit qu'on ne se rend pas compte qu'on a écrit une bêtise. Et je vais vous donner un exemple qui, pour moi, est resté un des plus beaux exemples de boulettes que j'ai fait dans mon...
On n'est pas là pour dresser un bêtisier.
Non, hein, mais celle-là était, cette boulette-là était pas mal. On était en 2002, campagne électorale pour les présidentielles. Michel Moiron présente le déroulement de la campagne de Lionel Jospin sur le département. C'est-à-dire, enfin, vous savez aussi bien que moi, le nombre d'affiches, les militants, où est-ce qu'ils vont distribuer, etc. Donc, bon, je cherchais une phrase un petit peu pour finir le papier. Une phrase qui percute un petit peu choc, et oui. Je me suis dit, tiens, ben, je vais reprendre leur slogan, pour changer la France, changeons de président. Et j'ai écrit, pour changer la France, changeons de candidat. Et le collègue qui a relu derrière moi n'a pas percuté, moi qui me suis relu, je n'ai pas percuté. Le Parti Socialiste a percuté dès le lendemain matin, je vous assure.
Vous avez été félicité, malheureusement. Comment jugez-vous l'évolution de la presse écrite que vous avez vue, que vous avez observée et pratiquée depuis plus d'un quart de siècle ?
De façon très pessimiste. C'est-à-dire que la liberté d'expression se réduit, les journalistes s'imposent eux-mêmes, les jeunes journalistes sont formatés et s'imposent à eux-mêmes une espèce de restriction de leur liberté d'expression. On voit aujourd'hui qu'on ne donne la parole qu'à ceux qui l'ont déjà, aux hommes politiques, aux médias, etc. Et quand on essaye de donner la parole à d'autres personnes, on se fait un petit peu regarder, mais pourquoi ? À quoi ça sert ? Enfin, ça ne va pas se vendre, ça ne sert à rien. Il y a toujours cette idée de vendre. L'information, ça se divulgue. Alors évidemment, on est obligé de la vendre parce qu'on est bien obligé de travailler pour la donner au lecteur. Mais la course à l'échalote des grands groupes qui cherchent toujours à faire plus de bénéfices, à diversifier, etc., ne va pas du tout dans le sens d'une information réfléchie et posée. On voit des choses qui sortent sur Twitter, qui sont reprises immédiatement de toutes les façons aujourd'hui. Et en Dordogne, on le voit. Hein. Dès qu'il se passe un événement, il faut immédiatement que le journaliste tweet. Il faut être le premier à l'annoncer sur le réseau social. Est-ce qu'il faut être le premier à l'annoncer ou est-ce qu'il faut être celui qui l'annonce le mieux ?
Oui,
la question commence à se poser quand même, et avec le plus de vérité dans son article. On met trop de pression, et puis je vous dis, on formate aussi, on formate la jeunesse de plus en plus, j'ai l'impression.
À travers les modes d'expression comme celui que vous
avez cité. Oui, moi je leur rappelle toujours aux jeunes journalistes qui parfois sursautent quand ils m'entendent répondre ou faire certaines réflexions dans des milieux où normalement il faudrait plutôt soi-disant se taire. Je leur rappelle toujours que la liberté d'expression ne se perd que si l'on ne s'en sert pas. Il ne faut jamais l'oublier.
Est-ce qu'il vous est arrivé de vous sentir un peu à l'étroit dans les médias locaux du Périgord, de la Dordogne, qui ne sont pas quand même... ils font pas preuve, en tout cas, je parle des deux grands principaux. Ils font pas preuve d'une ouverture remarquable sur ce qui se passe à l'extérieur et dans le monde.
Non, je me suis jamais sentie en fait tellement contrainte ou réduite parce que. D'abord parce qu'effectivement, le but d'un journaliste local, c'est de toujours parler de son département, ou alors de parler de ce qui se passe à l'extérieur, mais avec une accroche dans son département, dans celui pour lequel il travaille, dans lequel il travaille. Mais il y a toutes les richesses humaines possibles et imaginables dans ce département. Il y a des gens qui entreprennent, alors il n'y a pas que des grands patrons qui entreprennent, il y a des gens qui entreprennent à un tout petit niveau, il y a des gens qui se mobilisent, qui s'investissent pour énormément de choses, il y a des personnalités qui sont quand même des grandes personnalités aussi, même si elles n'ont pas une aura nationale ou internationale. Il y a vraiment, je pense, à l'échelle du département... Un département, c'est un monde en miniature. Hein. Donc, je ne me suis jamais sentie contrainte. Au contraire, pouvoir mettre en avant toutes ces personnes qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas visibles, pour moi, c'est l'essence même de mon travail.
Les habitués de la rue vous connaissent bien. On vous voit, on vous a vu souvent sur les manifestations, interroger... les personnes qui défilent pour telle ou telle cause. Est-ce que vous avez des souvenirs, de bons, de très bons souvenirs à ce sujet-là, dans ce contact direct avec la foule, avec l'opinion, que vous recueillez
oui.
Dans ces occasions?
J'ai énormément de souvenirs de chaleur humaine, en fait. C'est-à-dire que, contrairement à l'idée souvent reçue que le journaliste est mal perçu, ou alors peut-être que c'est aussi parce que je travaillais à l'Écho, mais c'est vrai que on est toujours bien reçu dans tout ce qui est mouvements sociaux. Après, pour ce qui est des grandes rencontres que j'ai pu faire sur le département, c'est vrai qu'il y a deux personnalités, mais alors là, ce sont des personnalités nationales et internationales que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'honneur à rencontrer, et j'étais vraiment heureuse de faire ces reportages. C'était Robert Badinter, parce que c'est quand même l'abolition de la peine de mort à une époque où 62% de la population était pour la peine de mort. Il a réussi à le faire voter. Et Daniel Mitterrand, qui a toujours été une femme de beaucoup de courage, de conviction, et qui n'a jamais baissé la tête, et qui, surtout, même quand son mari était président, pouvait prendre des positions totalement différentes de celles que lui prenait dans son rôle de président.
Alors ça, ce sont des personnalités hors du commun, bien entendu, que vous avez eu l'honneur de faire parler. Mais est-ce que vous êtes arrivé dans des manifestations comme ça, que vous couvriez, d'être ému parce que vous vous rendiez compte qu'il y avait un enjeu qui était quand même particulièrement important pour les gens qui défilaient?
Oui, 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 on l'a beaucoup vu. On l'a vu aussi avec les gilets jaunes qui, justement, faisaient ressortir, font toujours ressortir tous les problèmes qui minent notre société depuis des années. En fait, puisque les gilets jaunes n'ont pas vraiment une revendication globale, ils ont tous un paquet de revendications parce qu'ils ont tous un paquet de problèmes qui peuvent être différents. Certains ont un emploi, d'autres n'en ont pas. Chacun a vraiment sa problématique. Et quand vous rencontrez des gens qui vous expliquent qu'ils ont le choix entre se chauffer ou manger en plein hiver...
Et dont vous voyez à l'évidence qu'ils sont sincères et...
Ah oui, 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 quand vous... Des gens qui ne... on parle beaucoup en ce moment de migrants, ce sont avant tout des êtres humains qui ont fui des situations catastrophiques. Quand vous rencontrez une famille avec 4 enfants qui vivent dans 2 chambres de 10 mètres carrés dans un hôtel où ils ont à peine la place de se faire à manger et où les parents, malgré tout, essayent de garder une vie familiale construite, où les enfants vont à l'école, font preuve d'un courage phénoménal, vous rencontrez des situations, oui, où vous êtes au bord des larmes, c'est évident.
Alors, justement, partant de là, quel regard portez-vous, avec le recul que vous avez maintenant, sur notre époque actuelle, ce qui est en train de se passer, à savoir la paupérisation croissante dans un pays comme le nôtre, et puis, comme toile de fond, l'urgence écologique, l'urgence climatique, que tout le monde a fini par reconnaître maintenant, et anticiper, commencer à parler de catastrophes imminentes, etc.
On veut nous faire croire que la société se divise. En fait, je crois que tout le monde est le nez dans le guidon, parce qu'il faut travailler pour pouvoir se nourrir. Donc ceux qui ont un travail, je ne dirais pas qui ont la chance, parce que normalement avoir un travail est un droit et non pas une chance. Donc ceux qui ont un travail court du matin au soir pour assumer leurs tâches et puis assumer leur vie de famille aussi et tout ce qui va avec. Est-ce que les gens ont vraiment... Évidemment, c'est facile de les opposer les uns aux autres, de dire, voyez, vous allez prendre votre retraite à 65 ans alors que vous faites un travail dur, alors que les cheminots, ils vont la prendre à 55 ans, leur travail est moins dur aujourd'hui. Oui, d'accord, les cheminots, ils cotisent à 46% pour la retraite, nous, on cotise à 24%. Donc effectivement, ils partent plus tôt, ils ont une retraite plus élevée, mais ils cotisent beaucoup plus que nous. Donc quand on essaye d'opposer les catégories comme ça les uns aux autres, et que les gens se renseignent vraiment, ils se rendent compte qu'en fait, non. Quand il y en a un qui a des avantages, quelque part, il les paye, ces avantages. Donc effectivement, notre société peut-être se divise, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, elle est plutôt en train de se rassembler, parce qu'on est face à une telle attaque néolibérale que... Les gens commencent à ouvrir les yeux. Je pense que les grands dirigeants, que sont les patrons du CAC 40, en fait, tous ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, pensaient pouvoir nous imposer un mode de vie Ils ont commencé en nous obligeant à passer par les comptes en banque à la fin des années 70. Avant, on pouvait toucher son salaire en liquide, hein, je le rappelle. Aujourd'hui, les banques ont la main sur tous nos comptes en banque. Il y a un paramètre qu'ils n'avaient pas prévu, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ils ont beaucoup de défauts, mais ils peuvent aussi beaucoup servir à se rassembler. On l'a vu avec la manifestation « Nous toutes » dimanche dernier à Paris.
Oui, mais le mauvais côté, c'est quand même la tyrannie des GAFA.
La tyrannie des GAFA, mais ça, quand on voit que c'est Zuckerberg qui vient discuter nez à nez avec Macron comme s'il était je ne sais pas quoi, ministre de l'économie de son pays, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ces gens-là sont des industriels qui restent à leur place et qui payent leurs impôts, c'est tout, et qui n'aillent pas payer leurs impôts ailleurs. Je viens d'apprendre ce matin, mais on en apprend tous les jours avec Amazon, qu'Amazon, en fait, ne fait aucune affaire en France. Toutes ses affaires en France, elle les déclare au Luxembourg, comme ça, elle ne paye pas d'impôts en France. Et on va aller acheter les cadeaux de Noël de nos gamins à des gens comme ça qui appauvrissent toute la société et qui appauvrissent nos gamins ? Non.
Je suis content, et nos auditeurs le seront sans doute, de voir que malgré les coups que vous avez pris et que vous avez pris encore récemment, vous avez gardé toute votre combativité. Le temps dont nous disposons est en train de s'écouler rapidement. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur vos hobbies ? Vous parlez un petit peu de la photographie, vous dites que vous n'avez pas d'archives, mais enfin quand même...
Je dis que je n'ai pas d'archives, je mens, je n'ai pas... Je ne sais pas combien j'ai de diapos,
négatifs,
de plaques, peut-être 10 000.
Tout ça,
parce que j'ai récupéré tous ceux de la famille aussi.
Tout ça, maintenant, il y a des scanners qui sont tellement performants que...
Maintenant que je n'ai plus de travail, je vais pouvoir m'y pencher.
Il faut vous mettre au travail.
Ça et militer. Militer et manifester aussi.
Voilà, bon, mais quand même, d'autres hobbies ?
La musique.
Oui.
J'aime bien la musique. Je lis aussi. J'aime beaucoup lire. Alors que ça soit des polars, j'aime bien les polars, pas tous, mais... Et les livres historiques, tout ce qui est... j'ai toujours été passionnée par l'histoire, donc tout ce qui me parle d'histoire me plaît.
Si demain, on vous disait, ben voilà, tu peux recommencer ton travail de journaliste, vous ressauteriez dans le...
Ah, ça dépend où.
Dans le bateau.
À l'écho.
Non, pas forcément à l'écho, mais...
Alors, si c'est pas à l'écho, je suis pas sûre...
Si, on peut ressusciter...
Oui, bien sûr, on peut rebondir, on peut aller dans un autre média. Après, d'abord, il y a beaucoup de jeunes journalistes qui sont au chômage. Moi, je vais quand même avoir 60 ans l'an prochain, donc peut-être que je peux laisser la place aux jeunes. Ça, déjà, c'est une réflexion. Et deuxième réflexion, j'ai été trop habituée à écrire selon mes convictions. Pour aller dans un autre journal et écrire sous la dictée ou sous la pression.
D'accord, c'est pour ça que vous faites allusion à un retour éventuel à quelque chose qui ressemblerait
plus près
à l'écho.
Oui.
Je crois que le temps dont nous disposions est presque écoulé. Isabelle Vité, merci pour ce témoignage qui va nous laisser et laisser sans doute beaucoup d'auditeurs sur leur faim, parce qu'on n'a pas tout dit, on n'a pas tout abordé. On a simplement effleuré la richesse de votre expérience et de vos souvenirs. Et je vous souhaite de profiter au maximum de ce moment de répit que vous a amené la fermeture de l'écho, et puis d'en tirer le meilleur parti pour l'édification de toutes les couches de la société.
Merci.
Merci beaucoup encore.
أثلي سود في بورا ثقيك شمن سحلولا جمعت تسرقو ثفسو ثقور هيدرا نحجبا أثلي سود في بورا ثقيك شمن سحلولا جمعت تسرقو ثفسو ثقور هيدرا نحجبا
مذاق جمعا. Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
تشاهد سلسلة
فالخليه